Cette année-là, l'océan Atlantique s'emplit d'une infinité de sons. Igor Stravinsky le traverse, Arnold Schoenberg aussi, de même que Paul Hindemith, Béla Bartók, Darius Milhaud et Kurt Weill, fuyant l'Allemagne pour se réfugier aux États-Unis. Et en décembre, le premier secrétaire du gouvernement de Palestine annonce que le gouvernement proscrira l'usage du chauffard parce que sa sonnerie évoque une sirène d'alerte. Bernhard se représente le Messie arrivant de Lisbonne au signal des sirènes d'alarme. Cet extrait tiré d'un roman intitulé Bernhard a été écrit par Yoel Hoffman. Et je souhaite, pour cette émission, vous faire découvrir un auteur israélien qui écrit en hébreu, un auteur peu ordinaire, et c'est un euphémisme, de ceux que l'on pourrait nommer post-moderne, mais je pense que Hoffman n'appartient à aucune catégorie. Ses romans et ses nouvelles ne déroulent le fil d'aucune histoire. Sa langue ne ressemble à rien qui était écrit jusque-là en hébreu. Et on se trouve sans cesse entre réel et imaginaire, entre prose et poésie. Yoel Hoffman est cet écrivain hors norme, né en 1937 en Roumanie, dans une famille juive de culture austro-hongroise. Ses parents, fuyant l'Europe et le nazisme, émigrent en Palestine l'année suivante. Il perd sa mère à l'âge de 3 ans, et son père le confie à un kibboutz jusqu'à son remariage. Très jeune, Yoel Hoffman part pour le Japon, où il restera 2 années à étudier dans un monastère bouddhiste. Il y étudie la pensée et la littérature japonaise et chinoise. Il achève son doctorat en philosophie japonaise à l'université de Kyoto, en 1974. Il a enseigné les littératures extrême-orientales à l'université de Haïfa et est devenu un traducteur renommé de poésie japonaise et en particulier les haïkus en hébreu. Il reste profondément influencé par le laconisme de ce genre littéraire. Par la suite, il se rapproche du chassidisme. Yoel Hoffman est toujours vivant aujourd'hui, il se met à écrire de la prose tardivement. Son premier recueil paraît en 1988. Il a donc déjà une 50aine d'années. Et il s'agit d'un livre surréaliste pour la jeunesse. Ce livre s'intitule « C'est une bonne idée d'acheter des éléphants au mois de février ». Inédit en français pour l'instant. Puis paraît un recueil de nouvelles, Sefer Yosef, en 1989, le livre de Joseph, et c'est de celui-ci qu'est tirée la nouvelle Ketchin, en français, publiée aux éditions Galahad, sous le titre « À la recherche du troisième œil ». Alors malheureusement, ces éditions Galahad, qui avaient inauguré, je vais en reparler évidemment, avec cette recherche du troisième œil, traduite par Sylvie Cohen et donc parue en 2011, a malheureusement mis la clé sous la porte. Et c'est fort regrettable parce que c'est une maison d'édition évidemment qui cherche des ouvrages, originaux. Qui ne s'inscrivent pas forcément dans le sérail des œuvres israéliennes typiques, je dirais, caractéristiques, style Amos Oz, Grossman, Alef Beti Yehoshua, Tzuria Shalev, ou même Meir Shalev d'ailleurs. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement singulier. La même année, en 1989, est publié son roman Bernhard, qui se caractérise par une intrigue très lâche, pour ne pas dire une absence totale d'intrigue, un amour avéré pour les mots qu'il fait chanter, même s'il s'agit d'un texte en prose, un usage d'outils graphiques qui ne ressortissent pas nécessairement de la littérature. Je m'explique. Hoffmann utilise des mises en page qui rappellent plutôt le livre de prière. Des lignes brèves, des grands intervalles, la vocalisation, pas toujours, de minuscules extraits numérotés, des traductions de termes étrangers dans la marge, ainsi que l'annonce de la première ligne d'une page au bas de la page précédente. De plus, nombreux sont ces ouvrages à n'être imprimés que sur le recto et qui comportent en plus des dessins ou des photographies, à l'instar par exemple de l'écrivain de langue allemande Sebald. L'une des caractéristiques spécifiques de l'écriture de Joël Hoffmann est l'abondance de parenthèses. Il s'agit véritablement pour lui de l'affirmation d'un art poétique. L'écrivain interrompt le cours du récit afin de préciser un détail le concernant, lui ou le lecteur, ou les autres personnages, ou bien encore le processus d'écriture. Cet effet de style s'oppose à la distinction classique entre ce qui est important et ce qui est secondaire et rend difficile, voire impossible, le suivi d'une intrigue romanesque, quelle qu'elle soit. Et donc en 2008, les éditions Galade vont publier ce roman, Bernhard, une voix unique, un univers énigmatique porté par une langue sèche mais d'une mystérieuse puissance onirique. Voilà comment s'ouvre le roman. À la mort de sa femme, Bernhard pensa « Le monde est infini, une galaxie en cache une autre ». Il s'efforça d'imaginer Paola, sa chair pâle fusionnant peu à peu avec le vaste ordonnancement de l'univers. Mais le décès de Paola n'était pas une mince affaire. Où Paola se trouve-t-elle à présent ? Songea Bernhard. C'est ainsi donc que s'ouvre le roman, composé de 172 fragments, une polyphonie de récits, constellée comme tous les livres de Hoffmann, de mots yiddish, allemand, hongrois, arabe, le tout traduit en marge, à l'instar de ces gloses que l'on peut trouver sur une page de Talmud. C'est-à-dire que Joël Hoffmann efface de cette façon les frontières incertaines tracées entre le roman et la poésie. Dans « À la recherche du troisième œil », donc le titre original étant « Kätzchen », petit chat en allemand. Justement, Kätzchen est un petit garçon. Sa mère est morte et son père, qui a perdu la raison, est interné. L'enfant habite Tel Aviv dans les années 50, entre oncle Arthur, tante Oppenheim et leurs amis. Comme eux, Kätzchen ne parle que l'allemand. Il vit dans une sorte d'apesanteur, sans amis de son âge, écoute les grandes personnes sans vraiment comprendre ce qu'elles disent ou ce qu'elles font, l'amour ou la guerre. Hoffmann écrit là à fleur de sensation. Un jour au café, Kätzchen s'ennuie quand il remarque des fourmis sur une cloison. Je cite. Kätzchen imagina que les fourmis sur le mur possédaient leur propre café. Une fourmi blanche posa deux gâteaux à la crème sur une table de fourmis. La tante fourmi sirotait son café, tandis que Kätzchen fourmi buvait du chocolat dans un verre de fourmi. Fin de citation. Rien que de normal pour un enfant qui, un jour, a découvert qu'il était un cyclope, qu'en fermant les yeux, un troisième s'ouvrait sur son front pour faire de lui un voyant. Sa vision était floue, mais le monde avait acquis une transparence qui lui faisait défaut auparavant. Fin de citation. Oncle Arthur, qui ne sait que faire de cet enfant, décide de le placer dans un kibboutz. Ce qui était quelque chose d'assez ordinaire, je dirais, dans ce nouvel État d'Israël, où les enfants à problème, ou en tout cas les familles qui avaient des problèmes avec leurs enfants, pouvaient avoir recours à cette solution de placer l'enfant au kibboutz, où il avait une famille d'adoption, et où il pouvait se régénérer, entre guillemets, au contact de la vie en collectivité, en communauté, avec d'autres enfants. Ça a été beaucoup le cas à l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, au début des années 60, où les familles, là, tout simplement, n'avaient pas forcément les moyens financiers en arrivant en Israël pour élever souvent une progéniture nombreuse. Et nombreux sont les petits Juifs marocains, voire tunisiens, à avoir été placés en kibboutz pour un temps. Voici donc un extrait de l'arrivée de Katzchen au kibboutz. Le portail du kibboutz franchi, oncle Arthur demanda à un homme vêtu de bleu où il pouvait trouver Herr Grossman. « Au secrétariat, » répondit l'homme en pointant un bâtiment du doigt. Oncle Arthur prit la main de Katzchen et ils suivirent la direction indiquée. Katzchen aperçut une vache. Leurs regards se soudèrent. En attendant, oncle Arthur appuya sa canne contre la barrière de l'enclos. Il reprit la main de Katzchen. « Komm, mein Kind !» le pressa-t-il. Katzchen se retourna et vit que l'animal avait également tourné la tête et le regardait. Herr Grossman était absent, mais une femme qui se trouvait là expliqua à oncle Arthur que Herr Grossman n'était pas Herr du tout et qu'il n'y avait pas un seul Herr au kibboutz, car chaque nouveau membre laissait le Herr à l'extérieur. Katzchen se demanda si le Herr collait à la peau du fameux Grossman et de quelle façon il s'en était débarrassé en arrivant au kibboutz. « Comment t'appelles-tu ? » demanda ensuite la femme à Katzchen. « Katzchen, » répondit-il. « Ce nom-là est bon pour l'Allemagne. Ici, il faudra t'en trouver un autre, plus approprié au kibboutz. » Se souvenant d'Avigail, Katzchen faillit suggérer à la femme de l'appeler Petit Chat. Mais quelque chose lui dit que ce n'était pas une bonne idée. Sur ces entrefaits, Herr Grossman survint. « C'est le garçon ? » demanda-t-il. Il le dévisagea d'un regard et ajouta « Comment t'appelles-tu ? » Katzchen ne pipa mot. « Il ne parle pas l'hébreu ? » demanda Herr Grossman à oncle Arthur qui répondit « Si, mais son nom ne convient pas au kibboutz. Quel est-il ? » sans qui l'autre ?« Katzchen, » dit oncle Arthur, « en effet, ce nom-là ne cadre pas avec le kibboutz. Allons à l'école. » Herr Grossman sortit, oncle Arthur et Katzchen sur ses talons. Dehors, le vent soufflait, ils croisèrent un homme en bleu à bicyclette. La vache suivit Katzchen des yeux quand il dépassa l'enclos. Il lui rendit son regard. « Moi, c'est Katzchen, » déclara-t-il. Oncle Arthur caressa la tête de Katzchen devant le portail de l'école. « Mein Kind, » dit-il, avant de tourner le dos et se diriger vers la sortie. On aurait dit un aveugle cherchant son chemin en tâtonnant de sa canne, songea Katzchen. D'une légère bourrade, Herr Grossman poussa Katzchen dans la salle. « Voilà le nouveau !» Les regards des autres enfants, la tignasse hirsute et d'un homme armé d'un couteau se braquèrent sur lui. « Bien, » dit l'homme en posant son couteau. « Comment t'appelles-tu ? » ?»« Je t'en parlerai plus tard, » intervint Herr Grossman. L'enfant considéra Katzchen. L'homme considéra Katzchen avec curiosité. « Va t'asseoir, » dit-il. Katzchen obéit. L'homme ramassa le couteau d'une main et une feuille d'arbre de l'autre. Puisque les citadins se sont éloignés de la nature leur a rendu l'appareil, dit l'homme, sans quitter Katzchen des yeux. As-tu entendu parler de la photosynthèse ? Nein, répondit Katzchen, croyant que l'homme lui parlait en allemand. Fou rire dans la classe. Tu ne comprends pas l'hébreu ? Non, si, dit Katzchen. Nouvelle hilarité générale. L'homme lui jeta un regard courroucé. La feuille aborde la lumière, absorbe la lumière. Du soleil et la transforme en chlorophylle, expliqua-t-il. Il entreprit de la découper. Tu as déjà observé une feuille au microscope ? Nein, s'exclama quelqu'un dans le dos de Katzchen, et tous de s'esclaffer d'oreille chef. L'homme sourit. Soyez gentils avec le nouveau, les enfants. Les élèves examinèrent la feuille au microscope. Katzchen, les yeux brouillés de larmes, ne vit rien du tout. Pendant la récréation, les enfants se massèrent autour de lui, dans la cour. Désignant sa chemise, boutonnée jusqu'au menton, quelqu'un demanda s'il avait oublié sa cravate. Un autre se moqua de son manteau. Katzchen détourna la tête et s'en fut. Il remarqua une échelle appuyée à un arbre le long du chemin. Levant les yeux, il vit une femme en bleu, juchée au sommet. Elle coupait des branches à l'aide d'une scie. « Ici, le travail des gens consiste à couper, » songea-t-il. Certains sectionnent des feuilles avec des couteaux. Et d'autres fendent des branches avec une scie. Il se souvint qu'à son arrivée au kibbutz, Herr Grossman s'était vu retrancher son Herr. Bientôt, on allait l'amputer de son nom, ce qui le fit penser à la vache. Il arpenta les allées du jardin jusqu'à l'enclos pour retrouver l'animal. Il n'était plus là. Kätzchen vit des prés à perte de vue. Il quitta le kibbutz et partit chercher la vache à travers champs. Fin de cette lecture. L'enfant va se perdre dans la campagne et il s'endort. Un vieux bédouin le découvre, l'abrite sous sa tente. Il lui parlera en arabe, Kätzchen lui répondra en allemand. Ils se comprendront très bien. Le lendemain, le vieil homme reconduira l'enfant vers le kibbutz. Un juif pieux lui expliquera la création du monde à laquelle il ne comprendra rien. Et Kätzchen finit par rejoindre son père qu'il ne trouve pas si fou que cela. C'est aussi un cyclope, il l'a vu tout de suite. Père et fils sortent de la ville. À la lisière des champs se dressait une montagne dont le sommet se perdait dans les nuages, tel un pansement immaculé. Kätzchen entrevit ce qui s'était passé et que ce qui devait advenir ne se produirait pas. Voici à présent un autre roman de Joël Hoffmann, court roman, Le tailleur d'Alexander Platz, également chez Galahad, 2013. Et voici donc le tailleur Yossel, juif russe, devenu Joseph, fils de rabbin, et son fils Yengele, c'est-à-dire petit garçon, qui vivent à Berlin, près d'Alexanderplatz, le quartier des Ostjuden, des juifs polonais. En 1928, après que Chaya Leal, l'épouse de Joseph, eût été tuée par les Cosaques, ils prennent le chemin de l'exil. Voici l'apprenti tailleur, Gurnisht, grand séducteur qui a fui Budapest, où son frère, le militant communiste Lajos, croupit dans les geôles du régime de Horthy. Voici enfin Siegfried, fils de Hans et de Lotte Stopf, fier de sa virilité naissante et bientôt de son appartenance à une race aux cheveux blonds et aux yeux clairs. On est en 1932 à Berlin et, nous dit celui qui raconte, on pourrait laisser l'histoire en plan à cet instant précis. Sauf que l'histoire ne l'a pas permis et que ce qui démarre à la façon d'une chronique de Staitl s'achève en récit tragique. Dans quelques mois, le 30 janvier 1933, un nouveau chancelier sera élu par le Reichstag. 5 ans et demi plus tard, le 9 novembre 1938, l'itinéraire de Siegfried, pour leur malheur, croisera celui de Joseph et de Yengele. La nuit de cristal ôtera leurs dernières illusions aux esprits candides. Sur cette trame bien connue, Joël Hoffmann installe une fiction détonnante à l'humour amer dans laquelle une époque se donne à lire. Une manière de prodige narratif qui réussit le tour de force de combiner la tradition juive avec une stupéfiante modernité de point de vue. Empruntant tantôt au rythme du conte, tantôt au tempo syncopé du montage, alternant des plans resserrés à l'extrême, des flashs, des tableaux vivant, Hoffmann construit un texte qui suggère magistralement le Berlin des années 30, son cosmopolitisme et la macération de la haine. Joseph y mène longtemps une existence sans histoire dans le respect de la tradition. Certes en plein cœur de la ville, mais en réalité à ses marges, davantage toléré que intégré. L'auteur le montre dans son quotidien, qu'on imagine guère différent de celui d'avant l'exil. Un éternel présent, régi par la coutume et ses préceptes, comme par les tournures langagières toutes faites. Tandis que, non loin de là, Siegfried fait son apprentissage de jeune bête blonde, citation, éprise de son corps et de sa vigueur. Gurnisht, pour sa part, a déjà pris le chemin d'un nouvel exil, à Londres. Je voudrais revenir un peu plus en détail sur ce qui constitue véritablement la marque de fabrique de l'écriture de Joël Hoffmann, à savoir la multiplicité de langues à l'intérieur même de l'hébreu. Tal Goldfein, qui est professeur de littérature à l'université de Tel Aviv, évoque à propos de la langue hébraïque de Yoel Hoffman une non-patrie lorsque l'écrivain dévie de la seule trajectoire hébraïque pour émailler son texte de toutes sortes de langues européennes, mais aussi de temps à autre de quelques mots d'arabe. Il faut rappeler que le choix du mouvement de la Haskalah, le mouvement des Lumières juives, en 1780 en Prusse, d'utiliser l'hébreu comme langue littéraire, a entraîné des problèmes complexes d'identité culturelle, car ce choix de l'hébreu impliquait une position contestataire envers les autres langues européennes, allemand, russe et surtout yiddish. Je rappellerai pour mémoire la seule conférence de Tchernovitz en 1908, où il s'est agi de désigner, de voter pour désigner la langue du peuple juif. Robert Alter, célèbre critique de littérature hébraïque et comparé, américain, écrit à ce propos que l'hébreu a toujours été une langue contestée, appelée à produire une émulation et à incorporer ses rivales linguistiques. Or, avec la normalisation de la littérature hébraïque en Palestine, ottomane et mandataire entre 1880 et 1948, il est intéressant de constater que ce facteur multilingue ne disparaît pas entièrement. Le multilinguisme va occuper en fait une autre place, va jouer un autre rôle dans la littérature israélienne contemporaine. Ce qui était jusqu'à la fin du XIXe siècle un état de fait dissimulé, c'est-à-dire l'hébreu seul tenait le rang de langue littéraire dans les mouvements de renaissance littéraire juive, va peu à peu changer. Josef Rheinbrenner est le premier à introduire au début du XXe siècle des vocables autres que l'hébreu dans ses nouvelles et romans. Du yiddish, du turc, de l'anglais, de l'arabe, constellent ses œuvres. Le poète Avot Yeshurun sera l'un des plus grands porte-paroles de la langue hébraïque, mêlée aux idiomes locaux et importés. Chez David Grossman, Ronit Matalon, Gabriela Vigo-Rotem, on trouve des traces de langues étrangères à l'intérieur de l'hébreu. Mais c'est surtout chez Hoffman que ce trait s'exprime avec le plus de force. Les autres langues apparaissent au premier plan, sans aucune honte, constituant par ce seul fait de véritables stratégies de choix littéraire. L'utilisation d'autres langues, avec la traduction, charge les textes de Hoffman d'un commentaire socio-culturel sous-jacent sur la société du Yishuv d'avant 1948 pour les œuvres situées en Palestine mandataire. Le multilinguisme fait partie intégrante de l'écriture d'avant-garde de Hoffman. À travers ses écrits fragmentaires et parfois énigmatiques, à la limite entre prose et poésie, la juxtaposition de multiples réalités linguistiques du discours joue un rôle essentiel. Ces personnages, pour la plupart des immigrants d'origine européenne, s'expriment, pensent et font des citations en allemand, en yiddish et en hébreu, contrairement aux immigrants littéraires précédents de la littérature hébraïque qui parlaient exclusivement l'hébreu. De nombreux termes en hongrois, anglais, français, latin, arabe, encore une fois, parsèment les textes. En outre, Hoffman fournit, comme je l'ai dit, des traductions en hébreu de ces termes étrangers dans les marges du texte, parfois même à l'intérieur de celui-ci. Le personnage de Bernard Stein oscille, comme le texte, de façon très inconfortable entre deux univers culturels, celui dont il est issu, l'Europe centrale d'avant-guerre, et celui de l'immigration, la Palestine. Le clash entre les deux et le malaise vécu par Bernhard est illustré, par exemple, dans le passage suivant. Enfant, Bernhard survola la Laponie sur le dos d'une oie sauvage. En compagnie de Siegmund et de Clara, il vécut bien des péripéties. Siegmund et Clara décédèrent. Bernhard s'en fut seul pour la Palestine. Il épousa Paula, qui mourut à son tour. Et durant ces années, jamais, pas une seule fois, Bernhard ne prononça le mot « Alan ». Les Kidam Bedenans, qui se pavanent en Palestine en s'exclamant « Alan », le révolte. Bernhard, fils de Siegmund, n'est-il pas un homme ? Voudrait-il leur demander. Même les petits et les maigres disent aussi « Alan » avec affectation. En les voyant, Bernard est aussi gêné que s'il faisait de l'exhibitionnisme. Le petit D.S. Gregory est aussi Niels Holgersson, se dit Bernard, si l'on pouvait raconter le contact de son corps avec les plumes. Et voilà, la Laponie, les oies sauvages, toute l'enfance de Bernard a été nourrie de traditions culturelles européennes, ainsi que le suggèrent ses références au merveilleux voyage de Niels Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. Le signe distinctif du clash culturel ressenti par le personnage est de nature linguistique. En arrivant dans sa nouvelle patrie, ou plutôt non-patrie, Bernard ne prononce pas une seule fois, et ne le prononcera pas de toute sa vie, le mot « halan », mot d'argot hébreu emprunté à l'arabe qui signifie « salut, mets-toi à l'aise ». Bien plus, il exècre les natifs de cette terre levantine qui sont justement ceux qui disent « halan » et le font se sentir étranger, pas à sa place, marginal, remettant en question son identité même. Doit-il effacer une part de lui-même pour appartenir à cette nouvelle société ? Bernard révèle ce qu'il ressent à la fin de ce passage quand il déclare être honteux de ces immigrants européens, ces petits et ces maigres, qui disent « halan » de façon si peu naturelle, seulement désireux d'adopter une nouvelle culture et surtout de perdre l'ancienne à laquelle ils ont appartenu. Voilà donc quelques réflexions sur cet auteur tout à fait atypique, Yoel Hoffman, dont trois ouvrages ont été traduits aux éditions Galahad, Bernhard, À la recherche du troisième homme, du troisième œil, ainsi que Le tailleur d'Alexander Platz.